Quel rôle joue la Banque des Territoires, notamment pour soutenir l'économie après les émeutes? Nous avons rencontré Hervé Tonnerre, directeur Outre-mer et directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires. Il était en Calédonie il y a encore quelques jours. Un homme accusé d'avoir tué sa femme au cours d'une dispute conjugale. Il comparaît aux assises depuis ce matin. Le procès doit durer 3 jours. À l'étranger, Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé en direct du cessez-le-feu en Ukraine. Rien n'est conclu. Le président russe a fait part de ses exigences. En métropole, le conclave sur les retraites ne tient plus qu'à un fil. 2 syndicats et 1 organisation patronale ont claqué la porte des discussions. Et puis en sport, les joueuses de l'équipe de Lyon aux portes d'une nouvelle finale de Ligue des Champions féminines. Elles ont battu ce matin le Bayern 2-0 en demi-finale aller. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le député Emmanuel Tchibaou s'interroge sur les discussions sur l'avenir institutionnel. Lors de la séance des questions au gouvernement, il a interpellé le Premier ministre sur la sécurisation des discussions en cours et sur la garantie qu'apporterait l'État dans l'exercice du droit à l'autodétermination.
Monsieur le Premier ministre, nous avons proposé à l'issue des premières phases de discussion qu'une proposition de résolution à l'Assemblée nationale garantisse, au nom de la représentation nationale, un cadre juridique et politique stable pour les discussions à venir. 2 questions me viennent afin de pérenniser la dynamique difficile engagée de réasseoir les partenaires autour de la table sur l'accord de sortie. Comment comptez-vous sécuriser l'avancée des discussions institutionnelles? Puis 2e question, quelle modalité dans ce nouvel accord le gouvernement garantit pour l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples colonisés au pays? Merci.
Ce n'est pas le Premier ministre François Bayrou qui a répondu aux députés de la 2e circonscription. Ce n'est pas non plus Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, étant actuellement en déplacement aux Antilles. C'est donc Patrick Mignola, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, qui a pris la parole en réponse à Emmanuel Tchibaou. Il a d'abord assuré que le rôle du gouvernement et de l'État était d'assurer la stabilité du territoire et de favoriser les échanges constants entre tous les groupes politiques.
Sur la sécurisation des discussions, je vous indique qu'elle repose sur une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la transparence, comme l'a rappelé le Premier ministre dans sa lettre adressée aux forces politiques le 28 janvier dernier, afin de restaurer la confiance. Dès son arrivée à Matignon, il a confié cette mission au ministre d'État en faisant l'une des priorités gouvernementales. Comme vous le savez, comme vous l'avez souligné, Manuel Valls a souhaité rétablir les conditions d'un dialogue apaisé en garantissant un cadre stable. Et le rôle de l'État est précisément d'assurer cette stabilité et de favoriser des échanges constructifs. À ce titre, le Parlement doit être pleinement associé à ce processus, notamment à travers les présidents des 2 assemblées, ainsi que les groupes de contact sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement veille également à la continuité des discussions en s'appuyant sur des principes clairs et partagés, tout en maintenant un calendrier de travail structuré pour préserver les avancées obtenues.
Le ministre chargé des relations avec le Parlement a ensuite affirmé que le droit à l'autodétermination était un droit inaliénable.
Comme l'indique le document d'orientation présenté par le gouvernement le 28 février dernier, celui-ci est un droit inaliénable, un droit protégé par la Constitution française et inscrit dans les textes internationaux, notamment la Charte des Nations Unies. Toute évolution du cadre institutionnel, le gouvernement peut vous l'assurer, monsieur le député, devra donc respecter ce droit inaliénable en veillant à ce qu'il puisse s'exercer dans des conditions démocratiques.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. L'Assemblée nationale qui a validé la résolution européenne sur l'Azerbaïdjan déposé par le député Nicolas Metzdorf, Lionel Sabot.
Dans un communiqué, le député de la 1e circonscription indique qu'après son adoption en commission des affaires européennes, il y a quelques semaines, sa proposition de résolution européenne contre les ingérences étrangères, notamment celle de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, a été définitivement adoptée en commission des lois. Elle va maintenant être transmise officiellement au gouvernement. Nicolas Metzdorf précise que ce texte vient confirmer la réalité que nous subissons depuis des mois. La Nouvelle-Calédonie est la cible d'attaques hybrides, de campagnes de désinformation et de tentatives de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il ajoute qu'il va continuer à porter cette bataille au Parlement européen pour que cette résolution se traduise en actes. Selon lui, l'Europe doit prendre la mesure du danger et se doter d'un vrai bouclier contre les ingérences étrangères.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 98% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la présidente de la province Sud a raison de porter plainte après la nouvelle provocation du groupe Initiative Bakou qui diffuse un clip incitant à la violence en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont que 2% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Selon vous, Donald Trump et Vladimir Poutine vont-ils réussir à conclure un accord de paix concernant l'Ukraine? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À ce sujet, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone pendant 2h30. On y reviendra dans la page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde. Avant cela, une page d'actualité économique et d'abord le bilan d'Hervé Tonnerre, le directeur des Outre-mer et directeur régional du Pacifique de la Banque des Territoires. Il était la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
L'occasion pour lui de rencontrer les principales institutions calédoniennes, de dresser un diagnostic de la crise et de signer des partenariats financiers. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, un établissement public financier national qui dispose d'une partie de l'épargne des Français pour faire des financements préférentiels au profit de l'intérêt général. Sur le territoire, elle intervient surtout en matière d'aide, en matière d'habitat social, mais son rôle s'inscrit surtout aujourd'hui dans le contexte post-émeute, nous a dit Hervé Tonnerre.
Dans le cadre de la crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, notre rôle est très très clair. Nous sommes une institution publique qui a vocation à essayer d'accompagner, lorsqu'il y a des crises au niveau national, la capacité de traverser ces crises. Nos sujets d'attention, c'est de dire secteur du logement social. Il y avait déjà des éléments de difficulté avant. Là, clairement, le modèle économique du logement calédonien est fortement perturbé, fortement fragilisé. Donc, avec l'ensemble des acteurs compétents, on est en train de regarder comment mettre un ensemble de mesures pour conforter le secteur, y compris dans un domaine où on sait qu'il y a moins de population, qu'il ne faut plus faire de la construction neuve, mais comment est-ce qu'on fait tenir le modèle du logement social de la manière la plus, ce que j'appelle, autoportée.
Et l'une des actions primordiales de la Banque des Territoires dans le contexte actuel, c'est l'aide à la relance économique.
Deuxième axe d'intervention, bien sûr, c'est de voir avec les collectivités comment est-ce qu'on peut les aider également en complément des actions que mène l'État, que ça peut être pour les aider en termes de prêts ou d'autres types d'interventions, avec pour nous un regard qui est de dire, on va avoir des actions un peu immédiates, c'est de regarder comment on peut participer à la relance économique. On est en train de regarder aussi comment aider peut-être à mobiliser un outil préexistant qui s'appelle la foncière calédonienne avec les acteurs économiques. On regarde ce qui se passe sur l'industrie du nickel et notre enjeu, nous, ça serait pas de financer, bien sûr, le fonctionnement et l'exploitation du nickel, mais s'il fallait accompagner le verdissement de l'industrie du nickel, sa décarbonation, on regarde notamment un sujet comme la future station de transfert d'énergie par pompage, la fameuse STEP de la Tontouta, sur lequel on pourrait être un des acteurs financiers qui rendrait crédible ce projet.
Hervé Tonnerre prône surtout la clarté pour prendre des décisions utiles et il prévient que l'inaction serait le pire des dangers, mais des mesures ont déjà été prises par la Banque des Territoires.
De manière très concrète, on a pris déjà des premières mesures normales. Nos clients ou nos partenaires, déjà, on leur a accordé ce qu'on appelle des mesures de gestion de dette. C'est bête et méchant, c'est votre banquier, il vous accorde un délai pour payer de votre dette, il réaménage votre dette. C'est le plus simple, c'est naturel, il fallait le faire. On l'a fait tout de suite. Après, on a fait, tout le monde le sait aussi, un prêt exceptionnel au territoire. Un prêt de 50 millions d'euros dès le mois d'août. On a aussi prêté à d'autres collectivités. On est également, justement, avec les bailleurs, en train de regarder, et on est en train de regarder d'autres secteurs. Quand je vous parle de l'industrie du nickel ou quand je vous parle de la mise en place d'une foncière, ça serait l'immobilier d'activité. Donc, on intervient. Quand je vous parle de la création d'un fonds qui pourrait accompagner les entreprises innovantes, voilà, on essaie de mobiliser.
Et le directeur de la Banque des Territoires veut aussi se montrer optimiste, un optimisme raisonnable, dit-il.
Un point qui est important, c'est que depuis la crise, on a engagé plus d'argent en Nouvelle-Calédonie qu'avant la crise. Donc c'est plutôt un signal positif, c'est qu'on essaye de parier sur justement tous les enjeux actuels, c'est-à-dire une porte de sortie politique institutionnelle, une porte de sortie sur le vivre ensemble et une porte de sortie sur le modèle économique du territoire. Donc on est plutôt dans les rangs des optimistes raisonnables. Et c'est de parier sur cette intelligence collective qui n'empêche pas, je vous dis, qu'il puisse y avoir des sujets qui ne sont pas les nôtres. Mais nous, on dit, dans notre partie, il nous faut cette visibilité minimale. Si on veut que vous accompagniez, donnez-nous aussi une visibilité sur les sujets qui sont les nôtres. Et là, c'est plus facile pour nous d'y aller que si on était dans une période d'entre-deux où on voit les choses se dégrader et personne ne réagit.
Et 10 mois après le déclenchement des émeutes, Hervé Tonnerre parle d'un reprofilage, mais il affirme que la relance est possible.
Elle est tout à fait possible. Après, je ne suis pas entièrement persuadé, mais ne serait-ce que parce qu'il y a une baisse de la démographie, que ça sera le même modèle. Moi, j'utilise le terme reprofilage. Je m'en souviens dans les documents, il y a quelques années, c'était une Calédonie à 280 000 habitants. Il y avait dans les documents 3 miniers. Est-ce que c'est 3 miniers? Des sujets basiques, factuels, c'est tout ceci qu'il faut, mais de manière objectivée, parce que si on n'objective pas, ou si on est dans le rêve d'un passé idéalisé, on ne fait pas que de responsabilité. Après, on n'est pas en train de dire que le modèle ne peut pas fonctionner. Il faut simplement qu'il soit reprofilé aux données factuelles. C'est pour ça que je dis dans le logement, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas construire. Est-ce qu'il ne faut pas, par contre, saisir à bras-le-corps le sujet de la rénovation urbaine ? On pense que si. Donc accepter, y compris de démolir, de réduire l'offre, accepter de faire de la rénovation de qualité, accepter de faire de la politique de la ville pour insérer les populations.
Le directeur de la Banque des Territoires qui montre un optimisme raisonnable, qui estime que beaucoup d'actions immédiates doivent être prises pour relancer la machine. Mais ces décisions, dit-il, doivent être raisonnables. Il a prévu de revenir dans 6 mois pour savoir si l'on est dans la bonne dynamique. Mais il souligne que le dossier est suivi aussi directement en présentiel sur le territoire.
Radio Rythme Bleu, 11h41.
Les agences de voyage sont en difficulté. Le monde du transport aérien international calédonien connaît d'importants bouleversements qui mettent à mal ces agences qui ont déjà fortement souffert des crises successives, notamment la pandémie Covid, avant les violences de mai. En une quinzaine d'années, leur nombre a été divisé par 2,5. Vaïa Froger est la présidente du syndicat des agences de voyage. Elle devait être entendue hier par les élus du Congrès, mais le rendez-vous a été reporté de quelques jours. Son syndicat a souhaité être auditionné pour évoquer les difficultés rencontrées par le secteur depuis des années.
3 crises, la crise institutionnelle, la crise Covid et la crise de mai dernier. En 2009, on avait encore 15 agences de voyage présentes sur le territoire et au fur et à mesure du retrait de certaines compagnies, je pense au retrait des commissions Air France, aux incertitudes liées aux différents référendums qui ont commencé en 2018, la crise Covid et puis les épisodes de mai 2024 que tout le monde a subi, et bien aujourd'hui, il reste 6 agences de voyage en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ces 6 agences de voyage représentent entre 80 et 90 salariés.
Si le cas de figure devait arriver malheureusement et que les agences de voyage en Nouvelle-Calédonie étaient contraintes toutes de mettre la clé sous la porte, quel serait le choix des Calédoniens pour voyager ?
Peu de choix. Vous auriez dans ce scénario catastrophe 2 possibilités, soit de vous débrouiller tout seul sur Internet ou alors tout simplement aller faire la queue chez Air Calin. Donc on a une réelle utilité et j'ai la faiblesse de croire que les clients qui fréquentent nos agences savent reconnaître effectivement le service qu'ils reçoivent en agence.
Les agences de voyage ont souffert des crises traversées par le territoire mais aussi des changements des habitudes dans les voyages des Calédoniens. S'ajoute à cela la perte d'une source de revenus, nous a dit Vaïa Froger.
C'est 5% de commission que l'on percevait de la compagnie Air Calin correspondent à un travail que l'on effectue pour la compagnie, c'est-à-dire qu'on vend ses sièges.
Ça concerne toutes les agences de Nouvelle-Calédonie et des agences à l'étranger ?
Alors, oui et non. Toutes les agences de Calédonie, oui, ce qui représente un montant d'environ 135 millions CFP. Ça peut paraître beaucoup, ce n'est jamais que 0,6% du chiffre d'affaires de la compagnie aérienne. C'est un chiffre important à retenir, d'autant plus que ces 135 millions, s'ils ont été versés aux agences de voyage, c'est qu'on a généré des ventes pour la compagnie aérienne de plus de 4 milliards CFP dans leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas neutre. Les commissions ont été supprimées en Nouvelle-Calédonie et pourtant, elles n'ont pas été supprimées sur d'autres marchés. La direction d'Air Calin a fait le choix de continuer à commissionner le marché australien, le marché néo-zélandais et le marché Internet.
C'est dans le but de faire venir des touristes ?
C'est une bonne question, il faudra la leur poser.
Le syndicat des agences de voyage a saisi l'autorité de la concurrence pour ce qu'il considère être des pratiques contraires au droit du commerce. Toujours au chapitre économique, NCTNI dresse le bilan de la participation d'entrepreneurs calédoniens au forum Australie-Vanuatu des affaires. Il s'est déroulé du 10 au 13 mars dernier à Port-Vila, l'occasion pour les chefs d'entreprise de nouer des liens avec le tissu économique vanuatais, d'identifier de futurs partenaires. Sandrine Boiry, directrice générale de Socadim, a participé à ce déplacement.
Le déplacement était l'occasion de prendre des contacts, de présenter les entreprises calédoniennes qui faisaient voyage, pas forcément d'acter de la commande en tant que telle, et puis de créer aussi une cohésion de groupe, savoir travailler ensemble entre Calédoniens pour s'unir et offrir des offres, si on veut dire, groupées, pour répondre au marché du Vanuatu. Quand on n'est pas présent là-bas, c'est un territoire qui reste compliqué, hein, c'est normal, c'est de l'export. Donc, nécessité d'avoir une présence, nécessité d'arriver aussi avec des vraies propositions. On fait face à une concurrence qui est extrêmement forte et très très bien organisée. On doit s'organiser de la même manière puisque nous avons les compétences, nous avons énormément de force en termes de connaissances.
pour NCTNI, l'exportation peut être un débouché intéressant pour l'économie calédonienne, y compris dans un contexte de crise locale et de marché à tonnes.
Rien n'est gagné, mais avec du travail, il n'y a pas de raison et on transformera dans quelques mois, très certainement. Normalement, 6 mois, 1 an, hein, c'est un délai normal pour avoir des résultats sur un export. Honnêtement, aujourd'hui, ne pas travailler l'export face aux difficultés du territoire, pour nous en tout cas, serait une difficulté. C'est une solution que l'on trouve en tout cas pour garder et maintenir les emplois en local. C'est une source d'expansion externe dont je pense beaucoup parce qu'on a aussi, on est distributeur, hein, mais on a aussi des clients avec qui on souhaite mener cette aventure. Donc c'est une source de revenus dans l'avenir.
Et au-delà des échanges économiques, les entrepreneurs calédoniens ont pu rencontrer les membres du nouveau gouvernement vanuatais. Il est 11h46, l'heure d'une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie, notamment le dernier procès de la première session d'assises de l'année qui s'est ouvert ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Gino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta, en face de l'aérodrome. Sur place ou à livrer avec Midit, profitez d'une pizza généreuse et savoureuse avec des ingrédients frais. Gino Pizza, l'allié de vos moments d'évasion, téléphone 31 91 92.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité sur le territoire, c'est un procès pour meurtre que les jurés jugent depuis ce matin et jusqu'à vendredi pour clôturer la première session d'assises de l'année. Un homme de 38 ans comparé, accusé d'avoir tué sa compagne lors d'une dispute en juillet 2022 à Nouméa. Au palais de justice de Nouméa, on retrouve Léana Colombo.
Oui, et c'est un drame comme malheureusement on en connaît trop. Un couple se dispute, se sépare et il y a l'altercation de trop. Elle travaille comme juriste au commissariat et veut rentrer en métropole. Lui s'occupe de leurs 2 enfants et souhaite rester en Calédonie. Alors que leur départ est prévu 10 jours plus tard, une dispute éclate. Le conjoint se saisit d'un pichet et frappe à la tête la victime qui perd connaissance. Mais au lieu de directement appeler les secours, l'accusé part se débarrasser des affaires ensanglantées à la déchetterie et chercher ses enfants à l'école. Et c'est en rentrant et constatant que sa compagne baigne toujours dans une mare de sang qu'il finit par appeler les pompiers. Plusieurs plaies au sommet du crâne et une ecchymose à l'œil droit sont constatées. La victime décédera le lendemain au Medipol d'un traumatisme crânien sévère. À l'issue de l'enquête, l'homme qui avait un comportement suspect est confondu par des images de vidéosurveillance et finira par avouer avoir asséné plusieurs coups à sa compagne sous l'emprise de la colère. À l'ouverture de ce procès, l'accusé a déclaré souhaiter dire toute la vérité. Je dois la vérité à mes enfants qui vont désormais grandir sans leur mère. Je demande aussi pardon à la famille de ma compagne, a-t-il déclaré. La mère de la victime et plusieurs de ses tantes ont fait le déplacement de métropole. Le collectif SOS Violence s'est également constitué partie civile lors de ce procès. Au palais de justice de Nouméa, Léana Colombo, RRB.
Un mot des faits divers pour vous signaler que la circulation a été perturbée tôt ce matin à Saint-Louis. Un bus a été la cible de jets de pierre vers 5h. Il n'y a pas eu de blessés. Des branchages ont été également mis sur la chaussée. La circulation a été coupée le temps de l'intervention des gendarmes. Protéger ses dents, c'est protéger sa santé. C'est le message qui est relayé toute la journée aux étudiants de l'UNC par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Et oui, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, l'ASSNC a lancé une campagne de sensibilisation à l'importance de la santé bucco-dentaire et à son impact direct sur la santé générale. L'objectif étant de promouvoir les gestes préventifs et accessibles à tous. Ce matin, un dépistage était organisé donc à la maison de l'étudiant à l'UNC. Les participants comme Fernand ont pu bénéficier d'un examen bucco-dentaire gratuit et de conseils personnalisés de la part de la dentiste Anne-Laure Goulin.
Moi je dis toujours les gencives elles vous parlent. Si ça saigne c'est qu'il y a un souci. Donc soit c'est que tu brosses tes dents trop fort, soit ça veut dire qu'il y a trop de microbes qui sont restés sous ta dent. Et ça tu peux le faire par un brossage plus régulier, tu peux changer les choses. Ok ?
Ok, merci.
Donc là, je viens de faire un dépistage dentaire, donc de regarder si il y avait présence ou non de caries. Car on répète souvent qu'une carie, ça ne fait pas forcément mal. C'est aussi pour ça qu'il faut aller voir son dentiste une fois par an. Et d'expliquer la méthode de brossage et surtout pourquoi c'est important de se brosser les dents 2 fois par jour.
Et donc là, ça a été compris, le message est passé. Qu'est-ce qu'on retient de ce petit rendez-vous ?
Que je dois aller voir le dentiste. et que je dois prendre soin de mes dents surtout. Ben après, on n'en a plus, quoi. À notre âge, ça ne repousse plus.
Le docteur Anne-Laurence Rogoulin est également responsable du programme Santé Orale à la SSNC. Elle rappelle l'importance de la sensibilisation à l'impact que peut avoir des problèmes dentaires sur l'ensemble du corps.
Ce sont des futurs adultes, des futurs parents qui vont avoir certaines habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc on est là pour leur expliquer comment faire, parce qu'on se rend compte que la santé aujourd'hui, la santé bucco-dentaire est encore trop souvent négligée. Et le problème, c'est que ça a un réel impact sur des maladies chroniques telles que le diabète, le rhumatisme articulaire aigu ou sur les accouchements prématurés. Et ces maladies-là, ce sont un réel problème de santé publique. Et donc, on est là pour informer la population.
Et la campagne « Protéger ses dents, c'est protéger sa santé » lancée par la SSNC se poursuit jusqu'au 30 mars.
Et puis c'est aussi la semaine de la langue française et de la francophonie. Elle a débuté vendredi et se poursuit aujourd'hui notamment à la Maison Célière qui organisait une matinée d'animation pour les enfants sur le thème « Quand la francophonie explore la planète ».
Au programme de cette matinée, une chasse au trésor, une lecture de contes et des ateliers animés par les Amis du Livre et de la Relure et le Centre d'initiation à l'environnement. L'occasion de faire passer des messages forts aux enfants. Écoutez, Valérie Meunier, elle est directrice du CREPAC.
Ben c'est exactement ça, promouvoir la francophonie et ses valeurs. Et quand on parle de valeurs liées à la francophonie, c'est le respect de l'environnement, de notre biodiversité qui est exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et cette année, effectivement, on a voulu mettre l'accent sur l'environnement, le patrimoine aussi, évidemment. On est à la Maison Célière et le Centre d'initiation à l'environnement qui propose justement un atelier autour des océans.
Le message est bien passé. Les enfants s'amusent tout en apprenant. Gabi, Olin, Pauline et Maëlys écoutent attentivement les conseils et les explications avant de résoudre les énigmes.
Les enfants sont en train de résoudre un escape game où ils vont apprendre un petit peu les différents rôles des océans.
C'est bien, mais je m'amuse.
On a plusieurs symboles et on doit faire passer une corde dans les symboles pour voir la lettre et on doit trouver un mot caché pour ouvrir un coffre à code. Et on a plusieurs énigmes à faire.
En fait, on est à l'école ensemble et puis du coup, elle m'en avait parlé vu que c'était pédagogique. C'est gratuit, donc c'était cool.
On s'amuse bien, c'est très bien. Enfin, j'aime bien, en tout cas.
Et vendredi, dès 17h, la Maison Célière accueillera un nouvel événement gratuit, un rendez-vous familial, cette fois des ateliers ludiques autour de la langue française. Les réservations se font par téléphone auprès d'Ilona au 77 83 73. Le 77 83 73.
11h53, on va se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Vous, oui, vous. Vous êtes propriétaire d'un logement meublé et souhaitez le louer? Ça tombe bien. Cahier et Cadeau Immobilier recherche activement des biens meublés à la location. Profitez de notre offre. Frais d'agence location offerts pour les propriétaires et réduits pour les locataires. On a tous une bonne raison d'aimer le meublé avec Cahier et Cadeau Immobilier. Contactez-nous au 24 24 24 ou sur notre page Facebook.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants !
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 10h50 et à 15h50.
Et ouais !
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
On commence par l'actualité à l'étranger. 2h30 d'échange téléphonique en direct. Des avancées, mais rien de conclusif. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont téléphonés pour évoquer le projet de cessez-le-feu en Ukraine mis au point par Washington et Kiev. Au final, des avancées donc. Mais il reste encore des points en suspens. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Vladimir Poutine et Donald Trump se sont notamment entendus sur une trêve de 30 jours, mais limitée seulement à l'énergie et aux infrastructures. Cela inclurait par exemple un arrêt des bombardements stratégiques, notamment sur les centrales nucléaires ukrainiennes, souvent visées par Moscou. Le Kremlin et la Maison-Blanche ne mentionnent en revanche pas un arrêt total des combats, comme le voulait la proposition américaine scellée la semaine dernière avec l'Ukraine. Pour parvenir à un cessez-le-feu, Vladimir Poutine pose comme condition sine qua non un arrêt de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Une requête difficilement envisageable qui, selon Volodymyr Zelensky, affaiblirait considérablement l'Ukraine. Ukraine. Le président ukrainien estime d'ailleurs que Volodymyr Zelensky montre ce soir, je cite, qu'il n'est pas prêt à mettre fin à la guerre. Le chef du Kremlin avait pourtant dit à l'issue de son appel avec Donald Trump être ouvert à des discussions pour une sortie du conflit. Des échanges pourraient d'ailleurs bientôt avoir lieu au Moyen-Orient entre Russes et Américains selon la Maison-Blanche. Enfin, dernière annonce à retenir ce soir, un échange de prisonniers de guerre est prévu dès demain. 175 personnes de chaque camp, donc 350 au total, devraient être libérées dans les prochaines heures selon le Kremlin et la Maison-Blanche.
Un mot encore de l'actualité à l'étranger. Israël a repris ses frappes aériennes sur la bande de Gaza. 6 cadres du Hamas auraient péri sous les bombes. Les tensions entre la France et l'Algérie perdurent. Alger a refusé une liste de ressortissants à expulser de France. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a refusé l'invitation de la Grande Mosquée de Paris, proche du pouvoir algérien, pour la cérémonie de rupture du jeûne du Ramadan. C'est donc le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'y est rendu. Et il a joué la carte de la diplomatie. Alexandre Chauveau.
Attablé, entre autres, au milieu d'une vingtaine d'ambassadeurs dans un des salons de la Grande Mosquée de Paris, Jean-Noël Barrot rompt le jeûne, comme c'est de coutume chez les musulmans, par une date et un verre de lait. Le patron du Quai d'Orsay met ensuite les pieds dans le plat et n'esquive pas les tensions en cours avec l'Algérie.
Les tensions actuelles, dont nous ne sommes pas à l'origine et qui ont connu hier un nouveau développement problématique, ne sont dans l'intérêt de personne. Nous voulons les résoudre, avec respect bien sûr, mais avec exigence et sans faiblesse, sans rien céder sur les intérêts des Français qui sont notre boussole.
Une mise au point face à Chemseddine Hafiz, le recteur, proche du régime algérien et qui revendique être, je cite, une passerelle vertueuse entre les deux pays.
Dans ce climat de grave tension que nous connaissons, la Grande Mosquée de Paris garde toute sa sérénité et entend continuer sur le chemin de l'apaisement et de l'espoir d'une relation vertueuse entre la France et l'Algérie.
L'Iftar est placé sous le signe de la fraternité comme une parenthèse de diplomatie alors que la confiance entre Paris et Alger semble très largement entamée.
Faut-il interdire le port de signes religieux dans la pratique sportive ? François Bayrou est favorable à cette interdiction mais deux de ses ministres, la ministre des Sports et celle de l'Éducation nationale estiment que ce n'est pas une atteinte à la laïcité. L'aile droite du gouvernement incarnée par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin a riposté et l'opposition s'est engouffrée dans cette cacophonie gouvernementale lors des questions à l'Assemblée nationale pour critiquer le gouvernement Bayrou, notamment le Rassemblement national par la voix du député Julien Oudoul.
Quatre ministres, deux discours, zéro ligne politique. Pendant que votre gouvernement affiche ses divisions, l'islam politique avance sans opposition avec le soutien et la complicité de la France insoumise.
Et dans sa réponse, la ministre de l'égalité homme-femme, Aurore Berger, a tenté de clore le débat en déclarant qu'à la suite d'un recadrage de François Bayrou, le gouvernement était désormais aligné sur la question.
Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre et cette ligne, elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste.
Et puis, autre sujet de tension pour le gouvernement, le conclave des partenaires sociaux sur les retraites. François Bayrou a déclaré il y a quelques jours que le retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans n'était pas envisageable. FO a claqué la porte des discussions en désaccord avec le Premier ministre, mais aussi l'UDP. L'Union des petits patrons estime au contraire qu'il faut encore repousser l'âge légal de départ à la retraite. Écoutez son président Michel Picon.
À la suite de la déclaration du Premier ministre qui dit que 62 ans, c'est pas possible, c'est le déclenchement des déclarations des uns et des autres qui nous a fait dire « mais on est dans un piège ». Personne ne peut soutenir que c'est possible de revenir à 62 ans sans dépouiller les entreprises ou sans relever de l'impôt supplémentaire. On ne peut pas continuer à mentir aux Français.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. 11h59, dans un instant, on va conclure ce journal avec l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, avec une page sport au féminin aujourd'hui. On va commencer, Lionel Sabot, avec le football et les deux premiers matchs des quarts de finale aller de la Ligue des champions dames. L'Olympique lyonnais était sur les pelouses européennes ce matin.
Lyon qui s'est imposé 2-0 aux dépens du Bayern Munich et qui a pris une bonne option pour rejoindre le dernier carré de l'épreuve. Une épreuve que les Lyonnaises ont remportée, rappelons-le, à 8 reprises. C'est la Malawite Tibia Changia qui est arrivée cet été en provenance du Paris Saint-Germain, qui a donné l'avantage à l'Olympique lyonnais. Les Lyonnaises qui auraient pu doubler l'écart dans le temps additionnel de la première période sur un pénalty, mais il a été détourné par la gardienne du Bayern. C'est finalement l'haïtienne Melchi Durmonet qui a inscrit le deuxième but de l'OL un peu après l'heure de jeu. Les Lyonnaises s'imposent donc presque tranquillement et peuvent venir voir avec sérénité le match retour qui se jouera jeudi prochain au Groupama Stadium. Dans l'autre rencontre de la matinée, le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur Arsenal. Suite et fin de ces quarts de finale allés de la Ligue des Champions dames. Demain matin pour nous, deux matchs à suivre. Wolfsburg, FC Barcelone et un choc entre clubs anglais puisque Manchester City recevra Chelsea.
Et le sport féminin, c'est aussi le tennis avec le premier tour du tournoi WTA 1000 de Miami aux États-Unis. La Française Varvara Gracheva a une nouvelle fois été éliminée dès le premier tour.
La 65e mondiale numéro 1 française a été éliminée par l'américaine Alicia Parks qui pointe elle à la 59e place du classement WTA. Une défaite en 3-7, 3-6, 7-6 et 6-3. Après le gain de la première manche, Gracheva a tenu tête à l'américaine dans la deuxième jusqu'au jeu décisif où elle s'est complètement effondrée. Dans la manche décisive, Alicia Parks a réussi à convertir l'une de ses trois balles de break pour finalement empocher le dernier set et le match. La Française qui vit un début d'année très très compliqué. En effet, en 6 participations à un tableau final d'un tournoi depuis le mois de janvier, elle n'a survécu au premier tour que 3 fois et n'a pas dépassé le deuxième tour dans aucun de ces 6 tournois. Quand c'est mal embarqué, c'est mal embarqué.
Il est midi et 2 minutes, c'est la fin de ce journal. Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. Ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bon après-midi à tous.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.